I know how it sounds.
La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en ce beau jeudi soir en compagnie de Max et Mel.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas aujourd'hui, Mel?
Correct. Ça s'en vient, là, je le sens. Là, tranquillement, là, les médicaments vont faire effet, puis ça s'en vient.
Hey, mais sérieux.
Je vais me retrouver en forme dès la semaine prochaine, promis.
T'as été cogné puis solidement hein, par ce mot-là.
Oui, absolument. Mais ça faisait longtemps que je traînais. Et je n'allais pas consulter parce qu'on nous déconseillait d'aller consulter pour un simple rhume.
Oui.
Mais voilà que c'était pas un simple rhume. Hein? Donc, finalement, sinusite, otite et tout le tralala. Alors, c'est ça. Mais si vous voyez que ça perdure au-delà de 10 jours, là, n'hésitez pas à aller consulter parce que ça se peut que vous ayez besoin de médicaments.
Ben oui, et puis il est là le problème de ce que le gouvernement nous demande de faire en auto-soin. C'est parce que la plupart du temps, on n'est pas médecin, nous autres. Là. On ne peut pas évaluer adéquatement la condition qui nous afflige. Je veux dire, toi, tu ne savais pas que tu avais une otite et une sinusite, puis c'était impossible pour toi de le savoir, à part non, que si t'allais consulter.
Et voilà.
Ah, donc, notre bon gouvernement. Réglé. Merci beaucoup. C'est gentil.
C'est réglé. Gratitude envers la santé.
Ouais, c'est ça.
Gratitude aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous nous écoutez d'où ce soir? 88-670-9098. On ne sera pas en live sur TikTok, mais interagissez avec nous via le live 88-670-9098. Max, on va tout de suite aller rejoindre notre invitée parce que chaque fois, on manque de temps avec elle.
Ça va toujours trop vite.
Oui, ça va toujours trop vite et on a quand même trois sujets super intéressants que j'ai envie d'aborder avec elle. Et ce soir, on est en live avec Caroline Mathieu, coach relationnel spécialisé en relations amoureuses et naturopathe que vous pouvez retrouver là, via le site commelebonheur.com ainsi que Odyssée du bonheur sur les différents réseaux sociaux. Caroline, bonsoir.
Bonsoir, vous deux.
Bonsoir, Caroline.
Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous encore une fois ce soir. C'est toujours un plaisir de te jaser et j'avais hâte qu'on parle justement des trois sujets qu'on va aborder ce soir et on va tout de suite commencer avec les deux grands types de personnes en couple. Parce qu'il y aurait deux profils d'amoureux finalement.
Oui, clairement. Il y a plusieurs manières de se comporter en relation et c'est justement les deux profils que j'ai abordés il y a quelques jours sur les réseaux et que j'explique souvent en coaching pour que les gens comprennent bien où se situer et puissent mettre en fait des mots sur souvent comment ils ont envie de se comporter en relation et aussi comment ils attendent à un certain niveau peut-être que leur partenaire fonctionne, qu'on soit un homme ou une femme. Et pour moi, il y a vraiment deux styles très typique dans une relation, il va y avoir la notion de quand on cherche à être en relation et le type de personne qui cherche à avoir conscience qu'il faut s'engager en relation et que même si on passe des périodes parfois difficiles en relation, on va quand même rester présent et être là. De voir que les opportunités, enfin les difficultés dans un couple peuvent être plutôt des opportunités pour grandir en tant que oui. personne plutôt que des galères à vivre et puis des sujets
des
sur lesquels
négatives.
Se plaindre. Ouais, voilà. Dans notre relation et vraiment comprendre que en fait une relation se compose quand on est dans ce type de profil de personne, on est aussi dans une dynamique et je sais pas si ça va vous parler à vous deux par exemple ou aux auditeurs, c'est de comprendre que un couple c'est une personne plus une personne égale trois entités, c'est-à-dire toi, l'autre et le couple. C'est pas 2 plus 1, enfin 2 plus 2, j'arrive pas à le dire. 1
oui, plus 1 égale 2, c'est vraiment 3.
Voilà. Et on est vraiment dans une relation qui est avec deux personnes, on va se tirer un peu la bourre, ou bien qu'on est trop fusionnel, 1 plus 1 égale 1. On est vraiment trois entités, deux personnes qui cherchons à rester équilibrées dans notre propre vie, dans notre propre manière de fonctionner, mais on va aussi chercher à s'investir pour que l'entité du couple fonctionne. Je ne sais pas si ça vous parle déjà.
Oui, tout à fait.
Oui, 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 ouais. Vraiment.
Et l'autre profil de personne qu'on peut retrouver et qui peut parfois... risquer de porter défaut au couple, mais à chacun aussi, mais qui en fait est, je pense, très issu de notre éducation. Et je ne sais pas si vous avez parfois vécu vos relations sous cet ordre-là, souvent peut-être vos premières relations, qui font que la relation serait un peu sous la notion de l'effort pour que ça puisse fonctionner. Comme s'il fallait qu'on soit dans des efforts un peu constants pour que ça marche, qu'on fait ça pour que la relation fonctionne, on fait ça pour faire plaisir à l'autre. Mais on s'oublie souvent un petit peu, on peut être beaucoup dans le compromis.
Il y a des gens qui tombent un peu dans le déni aussi, qui font comme, ben le couple va pas bien, mais c'est normal, il faut faire des efforts pour être en couple, il faut travailler, c'est dur être en couple et tout ça, mais en réalité, ça prend du beau, là.
Oui, c'est clair. Et puis, comme tu dis, il y en a, ils sont dans le déni, à se dire c'est normal, ça prend des efforts, mais c'est quel type d'effort que ça prend, ça,
exact.
C'est pas censé être trop normal d'être constamment dans l'effort. Et moi, je pense qu'on a trop l'habitude d'être dans l'effort parce que quand on était petit, on comprenait pas trop pourquoi il fallait pas se laisser traîner, on comprenait pas trop pourquoi il fallait ranger sa chambre, on comprenait pas trop pourquoi, on savait juste qu'il fallait le faire et que c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on a tous été éduqués un petit peu à ça, à l'école pareil, qui fait que il y en a qui le transposent, je trouve, dans le couple et qui trouvent ça normal que bah, c'est difficile, on fait avec, on fait comme on peut, on se balance quelques reproches à la figure, l'autre il a fini par comprendre, il va ramasser ses caleçons qui traînent à côté de la panière à linge sale, puis la prochaine fois, vu que je lui ai déjà dit, il ne refera plus, alors qu'en fait il va le refaire au bout de 6 mois parce qu'il a fait des efforts pendant 6 mois, mais il n'a pas bien compris pourquoi il le faisait, même si ça peut paraître évident.
Ça, c'est une source de conflit quand même courante, hein, les tâches ménagères dans le couple.
Mais c'est le pire, je pense.
Oui, ça et l'argent. L'éducation, l'argent et le couple, le ménage.
Le quotidien, c'est ça. Après, il n'y a pas à avoir des gros sujets, etc., comme l'infidélité ou quoi, s'il y a eu, mais c'est des épisodes moins courants. Mais ouais, les tâches ménagères, je crois que c'est ce qui apporte le plus de reproches dans un couple au quotidien et ce qui peut pourrir le couple, sincèrement, à long terme. Parce que, comme on dit, en fait, quand on est dans ce profil de personne-là, on va grandir à travers des frustrations constantes, en fait. Et on va faire grossir une jauge de frustration qui fait qu'au bout d'un moment, les gens s'étonnent de se dire « Ah, j'ai l'impression de ne plus être amoureux ou amoureuse de ma partenaire ou de mon partenaire. »
C'est qu'à un certain moment, le partenaire qui ramasse toujours l'autre, qui est toujours derrière, peut finir par comme lâcher prise, mais devenir un peu comme le parent dans le couple, ou presque.
Ouais. Clairement.
Il y a l'impression de materner ou de paterner l'autre personne, donc ça peut être très nocif à long terme.
Clairement, et ça devient extrêmement compliqué à plein de niveaux, parce que celui qui se retrouve dans la position de materner, il n'est absolument pas à sa place, et il ne peut plus laisser l'espace à l'autre d'avoir des initiatives et d'être lui-même, souvent. Et l'autre est complètement infantilisé et il n'a pas l'espace de... Je veux dire, d'avoir ce rôle responsable en tant que partenaire. Et ça peut, du coup, même découler, si ça traîne à long terme, et suivant la relation, sur d'autres aspects de la relation qui peuvent être, du coup, assez tristes, finalement.
Et ça, c'est le genre de coaching que tu offres à des couples qui auraient besoin, peut-être, d'être ramenés un peu, si on veut. C'est-à-dire que tu peux les coacher, les enligner pour dire, regarde, ça t'appartient comme tâche, tu devrais... Est-ce que ça t'arrive souvent de recevoir des couples, ou c'est plutôt des gens en solo qui viennent te voir?
J'ai plus de profils de personnes en solo et on peut déjà beaucoup aider en ayant une personne du couple, parce qu'on va beaucoup, beaucoup travailler sur déjà de la prise de recul et que la personne arrive à saisir dans quel schéma elle se retrouve dans sa relation. On va beaucoup parler pour essayer d'observer comment tout ça est venu, qu'est-ce qui s'est établi, on va re-regarder l'histoire de la relation et de la personne qui vient. Et de là, souvent, ça va être beaucoup de conseils sur de la communication. Ça va beaucoup aider, dans un contexte très précis, avec une situation très précise, aider la personne à mieux communiquer et pouvoir exprimer en fait ce qui se passe et vers où elle aimerait amener la relation, parce que ça, on en aura parlé en amont, en fait, tout simplement. Voir, pourquoi pas, inviter le partenaire à venir en consultation aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, grâce à une personne qui venait, les deux partenaires. Mmh. Et ça, c'est génial quand on peut avoir ça. Mais bien souvent, j'ai une personne et on peut totalement travailler ensuite... sur le couple convenablement. Et parfois, j'ai aussi des couples qui viennent me voir. Ça, c'est vraiment chouette quand on a ça.
Et quand on parle de communication, Caroline, tu nous as signifié qu'il y a des situations bien précises qui demandent une communication bien précise. Mais par exemple, dans le domaine de parler de ses émotions en couple, c'est pas toujours évident. On entend plusieurs histoires en la matière. Est-ce que tu aurais des clés communicatives qui pourraient nous permettre de faciliter, par exemple, de parler de nos émotions en couple, de parler de sujets un peu plus délicats, un peu plus personnels?
Ouais, quand tu parles d'émotions, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Est-ce que t'as une situation précise, genre des émotions, par exemple, une frustration que tu vis, ou plutôt des sentiments?
Oui, ça peut être une frustration que l'un ou l'autre vit. Par exemple, prenons l'exemple d'un besoin là, qui n'est pas comblé et qu'on aimerait, qui fait partie d'une émotion de frustration, là, autrement dit, là, qu'on aimerait transmettre à l'autre, à notre partenaire. Est-ce qu'il y aurait un moyen de l'aborder sans froisser, avoir des clés
sans
de communication,
tomber
dans le reproche? En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'y a-t-il une solution miracle là, pour parler de ces affaires-là qui sont parfois difficiles à parler?
Il n'y a pas une solution miracle parce que la communication, c'est quelque chose qui... Mais je vais te donner quand même quelques clés qui sont totalement applicables. Faut juste comprendre que communiquer, c'est apprendre beaucoup sur soi, puis apprendre beaucoup à se responsabiliser. C'est-à-dire à responsabiliser que notre attitude, avant de parler même de nos paroles, nos intentions, c'est-à-dire pourquoi on va communiquer, et à la fin nos paroles, auront un impact sur l'autre. Et auront un impact sur ce qui va se passer derrière. Donc si, comme j'entends souvent, on va dire pour dire parce qu'au moins les choses sont dites, ça a quasiment aucune utilité, voire c'est délétère à la relation de faire les choses comme ça, parce qu'on va lancer notre venin, on va lancer notre énervement, et on va faire que nourrir ça dans la relation. Et la personne n'aura pas forcément entendu le message. Alors que si, et c'est là que je vais donner quelques clés,
Exact.
on
Donc,
va...
excuse-moi de te couper. Donc, le
Ouais, vas-y,
ton
vas-y.
et la façon dont on amène le message est aussi importante que le message en soi.
Et l'intention qu'on a derrière.
Voilà.
Si mon intention, elle est, je veux que tu ramasses ton caleçon, puis que tu le mettes dans la panière, et que tu le fasses à chaque fois, parce que ça, pour être poli, ça m'énerve, eh ben, c'est pas une réelle intention. C'est, est-ce que je me recule un petit peu, puis mon intention dans mon couple, c'est que chacun se responsabilise un petit peu. Mon intention dans mon couple, elle est que mon partenaire, il puisse se rendre compte que peut-être juste pour moi, c'est important en fait de pas vivre dans un bazar autour de la panière à linge sale, et que j'ai l'impression que quand il fait l'effort de se responsabiliser à le mettre dedans plutôt qu'à côté, je me sens respectée parce que pour moi, en fait, comme tu dis, c'est un besoin qui est non comblé. Et derrière tout ça, c'est quoi le besoin que j'ai en fait? C'est d'être respectée quand je fais le ménage et que lui, il a pas rangé ça ou elle a pas rangé ça. C'est le besoin, moi j'ai besoin peut-être de vivre dans un endroit qui est clean et que mon partenaire puisse
Je
le
suis déçue
respecter.
que tu te ramasses pas, ça me ferait plaisir que tu participes et bon, ça pourrait être fait de cette façon-là, disons.
C'est ça, et c'est vraiment le fait de se dire, ok, bah, déjà de faire attention au moment où on le dit, si il passe la porte de la maison, puis là tu lui balances dans la figure même avec les formes,
Ouais, c'est peut-être pas le bon moment.
ou par
C'est pas
texto.
forcément le bon moment.
Ouais, ou
Pas
par
un bateau
texto,
encore
c'est vrai
matin!
ça.
C'est ça, ça va pas marcher. Alors que si on prend le temps simplement, parce que c'est quoi mon intention? Que mon partenaire se sente bien dans mon couple, enfin dans notre couple, et que moi je me sente bien dans notre couple. Donc la première des choses, c'est quand il passe la porte, alors j'ai commencé à râler de mon côté, c'est comment tu vas, comment a été ta journée, on prend le temps de parler autre chose. Et là, je reviens sur le fait tout simplement, avec gentillesse, de lui dire, au fait, est-ce que ça fait plusieurs fois que je vois que ça traîne, et c'est vraiment pas un reproche, mais j'aurais juste besoin, parce que pour moi
Ouais.
c'est important, peut-être pas pour toi, mais pour moi c'est important, est-ce que tu pourrais mettre. Et faire attention, s'il te plaît, parce que je t'ai déjà demandé à mettre ton caleçon dans ta panière à linge sale.
Donc, dans
C'est
l'exemple des
bête.
caleçons dans la tanière, c'est important aussi de ne pas l'aborder au moment où on ressent la frustration monter en nous, parce que, par exemple, on arrive devant le fait accompli, là, les caleçons sont à terre, puis ils sont pas dans le
C'est
bac à
ça.
linge. Alors, on
Et
n'aborde pas
là.
le sujet à ce moment-là, parce qu'on est frustré, puis c'est peut-être pas une bonne porte d'entrée pour pouvoir aborder le sujet, c'est exact?
Dans l'idéal, c'est mieux de l'aborder au calme. OK? Il y a des fois où ça
Donc, on prend trois
passera
grandes
quand je...
respirations.
Voilà. Et on réexplique. On va prendre une douche et on en parle après. Mais c'est une notion après qui est de logique, en fait. Il hein. Faut observer dans la balance. Il y a des fois où on s'échappera et ce n'est pas un drame. Mais il faut que dans la balance, on puisse être capable de temps en temps et assez fréquemment quand même d'amener les choses autrement avec un peu plus de tact.
Moi, quand le message passe pas ou passait pas dans mon ancien couple, je lui demandais d'inverser la situation. Tu te
Oui.
sentirais comment si je faisais ça?
C'est une
Et des fois, ça
super
marchait.
technique. Ouais. Ça, faut pas qu'on l'utilise sur la défensive en mode trop
Exact.
souvent, que ça devienne un peu. Faut, de toute façon, dans un principe de base de communication bienveillante et non violente, il faut pas qu'on cherche à. Faut qu'on reste dans une intention et notre intention de base qui est qu'on veut que chacun se sente écouté et que chacun est sur un pied d'égalité, pas qu'on rentre dans de la bagarre. Donc quand on voit que dans la discussion, l'un ou l'autre n'est pas compris, ou qu'on a l'impression de ne pas être compris ou quoi, vaut mieux qu'on se pose et qu'on se dise, écoute, j'essaie de te passer un message simple, là on n'y arrive pas, j'ai besoin de prendre l'air un peu ou de passer à autre chose, j'ai besoin qu'on en reparle, je n'ai pas l'impression qu'on y soit arrivé, mais là j'y arrive pas et j'ai l'impression qu'on va se crêper le chignon alors
Ouais,
que...
puis c'est pas un aveu de défaite là, c'est juste prendre un temps pour reprendre la situation à un autre moment,
C'est
parce que
ça.
parfois quand on est en train de se chicaner pour des choses bénignes comme
Des
ça, on a
petites
l'impression que
bêtises.
justement faut régler ça absolument dans l'instant présent, sinon on va traîner ça. Mais prendre un pas de
Ouais.
recul, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut faire pour justement
Clairement.
revenir dans une situation de calme et pouvoir parler des choses sans tomber dans l'émotion qui va teinter le propos.
Exact.
Je suis tellement d'accord. Et faut pas qu'on ait peur, et on peut prendre l'habitude de le verbaliser comme tu le dis ça, et de juste dire écoute, là, on n'y arrive pas. Et mon intention de base, elle est plein de bonnes intentions, et je t'en veux pas, et même si son con est un peu énervé, au fond de nous, on lui en veut peut-être pas, donc je t'en veux pas, c'est juste. Tant que j'ai besoin qu'on règle ce sujet, mais j'ai besoin qu'on le règle dans le calme, je sais qu'on est capable, l'encouragement. Et le fait de donner confiance à l'autre en disant « je sais qu'on en est capable, je sais que tu es capable, qu'on s'entende, qu'on s'écoute, et c'est juste que là, on n'y arrive pas. » Quand je réamènerai le sujet, j'aimerais que chacun, on essaie d'y être ouvert. Est-ce que tu es OK qu'on en parle plus tard ?
Et c'est important de souligner les bons coups également.
T'as dit quoi ?
C'est très important de souligner les bons coups également. Il ne faut pas que
de
rester dans le négatif et que de prendre la parole ou de partager que des reproches. Là. Donc, si
votre
partenaire vous rend du service.
C'est ça. De valoriser, de savoir dire merci beaucoup.
Oui, il y a une bonne vieille technique là, qui s'appelle la sandwich de marde, là, si on veut. Là. C'est-à-dire que tu complimentes, après ça, tu adresses le problème et tu te fies sur un espoir certain à venir ou tu recomplimentes à la fin. Ça peut être une bonne technique aussi.
C'est ça. De fou. Je l'utilise beaucoup, beaucoup dans mes conseils avec les gens.
Oui, ça marche. C'est bienveillant au bout.
Ah, mais de fou. Et puis, toujours encouragé dans le dernier pain du sandwich, là, vraiment.
Je connaissais pas.
Je connaissais pas
la sandwich de marde.
T'avais pas entendu ça?
Non. J'adore ça.
Bah moi je dis pas sandwich de merde, je parle de méthode sandwich.
Ah ben ça c'est mon langage coloré, Caroline.
Donc la méthode du sandwich, ok, j'adore ça. On répète, donc la méthode du sandwich, c'est qu'on débute avec un compliment.
Absolument.
Ouais, et pas un compliment, hein, on fait attention.
Oh non, il y a une grande nuance.
Un véritable compliment.
On démarre vraiment avec un... Alors, c'est un compliment. Moi, je parle aussi de poser nos intentions et de se rappeler nos intentions. Parce que souvent, on s'arrête à ce qu'on voit. On veut que le caleçon soit dans la panière. Mais en fait, notre réelle intention, c'est qu'on veut que chacun se sente bien dans la relation. OK ? Et on ne va pas aller juste dire « Ah, mon chéri, je sais que tu es quelqu'un qui est génial. » alors qu'on a juste envie de lui dire « J'ai envie que tu mettes le caleçon. » Il faut que ce soit proportionnel à la situation. Je sais pas si je suis très claire.
Ouais, puis il faut que ce soit en lien avec la situation aussi. Là.
C'est ça, exact.
Exactement. Ah, tu sais comment t'es beau en général, mais tes caleçons, ramasse-les!
Vous savez, on a juste une vie et l'autre doit être un plus à votre vie et pas un casse-tête quotidien. Là. Si de plusieurs mois, vous n'êtes que dans les reproches et pas bien, vous n'êtes jamais satisfait de votre relation, je pense qu'il y a peut-être aussi des questions à se poser à un certain moment. Là.
Ouais. Alors, il y a des questions à se poser. Après, il y a certaines situations, mais il ne faut pas donner des excuses partout, où c'est vraiment l'apprendre à vivre ensemble. Et parfois, ça peut être un peu tough. Pourtant, on est compatibles, hein, mais il faut qu'on arrive à réussir à apprendre à vivre ensemble. Et souvent, là, il y a beaucoup de travail à faire sur nos émotions et notre communication, comme on en parle depuis tantôt. Et si jamais vous vivez ça, il ne faut pas mourir dans votre couple, là. Il faut vous faire aider, en fait, tout simplement, parce qu'il faut qu'on vous donne des clés pour réussir à surmonter
ça. Vous devez vous élever en couple, également.
C'est ça. Parce que, comme on disait tantôt, on peut très bien être le genre de personne qui a conscience que les problématiques qu'on va vivre dans notre couple, et si c'est quelque chose qu'on voit bien, que les deux partenaires, on a envie d'y arriver, on essaie de faire des efforts, mais on est maladroit, on est gauche, il nous faut des outils, il faut qu'on se fasse aider. Donc, la meilleure des choses, c'est est-ce que tous les deux, on est OK d'aller se faire aider ? OK ?
Yes.
Et si on a ça, pour moi, c'est à la rigueur OK de vivre quelques chicanes tant qu'on est dans cette démarche de « on veut y arriver ».
Et toi, tu offres des services à distance également, donc ça peut être fait, là, peu importe la région d'où vous venez, vous pouvez consulter Caroline pour ce type de problématique-là. Caroline, on va tout de suite aller faire une petite pause, puisqu'au retour, on va parler d'engagement. Donc, on va parler des gens qui ont du mal à s'engager. Est-ce que ces personnes-là ont réellement un problème ou pas? On va parler également des gens qui attirent que des personnes qui ne veulent pas s'engager. Hein? On voit des gens qui sont toujours dans un pattern de relations qui n'aboutissent pas. Donc, se retrouvent avec des gens qui ne veulent pas s'engager. Donc, on va discuter de ça. Et on va également parler de la différence entre être engagé versus être investi. Donc, on va parler de tout ça et plus encore au retour de la pause. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio Wave.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour, vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. On est en compagnie de Caroline Mathieu, coach relationnel spécialisée en relations amoureuses. En premier bloc, on parlait là, de couples qui, en fait, des deux grands profils de personnes en couple. Et on va maintenant parler des gens qui ont du mal à s'engager. Est-ce que les gens qui ont de la difficulté à s'engager ont réellement un problème? Quels sont les profils de ces personnes-là? Donc, Caroline, je crois que tu as bien des choses à nous dire à ce sujet.
Oui, alors il y a vraiment différents types de profils. Parfois, oui, il y a des gens qui ont un petit souci avec l'engagement et d'autres, c'est pas tellement un souci. On va d'abord parler d'eux en premier. Je vous ai déjà parlé dans l'émission et j'en parle souvent parce que je trouve que c'est quelque chose qui devrait tellement faire partie de notre société de manière populaire aujourd'hui qu'on va en parler autant que besoin. Pour moi, il y a deux grands types de relations. Il y a les relations de couple où on va vouloir s'engager, les relations assez classiques où on veut fonder des projets ensemble, etc.
Oui.
Et on a des relations amoureuses qui vont être pas forcément avec de l'engagement, justement, qui vont être parfois avoir le plaisir d'avoir quelqu'un dans notre vie avec qui on va partager de belles choses, de belles valeurs, de bons moments. Mais en fait, la volonté première dans ces relations-là, c'est qu'on va vouloir passer des moments de qualité avec l'autre plutôt que de construire des projets. Donc, on peut décider d'avoir une relation amoureuse et d'être foncièrement quand même avoir des sentiments pour l'autre et d'avoir une exclusivité avec l'autre, c'est-à-dire on n'a pas d'autres partenaires. On peut décider d'avoir des relations amoureuses avec différents partenaires, bien évidemment avec le consentement de chacun.
Si possible.
Oui, et là, on parle de polyamour.
C'est ça. Ça peut être complètement dans le polyamour. Ça peut être qu'on peut aussi avoir des relations amoureuses qui ne sont pas vraiment basées sur du sentiment, mais plutôt de la sexualité, donc plutôt orientée sexuelle. Et pareil, avec qu'une ou qu'un seul partenaire ou plusieurs partenaires. Donc là, je pense que tu vas aussi parler du libertinage potentiellement. Mais le libertinage,
oui, la polygamie, le libertinage.
C'est ça, etc., etc. On peut aussi avoir une espèce de relation amoureuse aussi avec un ami, c'est-à-dire on n'est pas forcément pleinement amoureux de l'autre, mais en fait, on a une bonne relation amicale, mais on partage plus qu'une relation amicale. Mais là, souvent, ça peut être un peu foireux comme relation. Il faut quelque chose.
Oh, que oui. Ah, oh, oui, ça, c'est.
Oui. C'est la parce recette que souvent, du désastre. La gestion des attentes est différente d'un côté et de l'autre.
Oui, complètement. Il y en a toujours un qui finit par plus vouloir que l'autre.
Oui, c'est ça. Ou qui finit par être jaloux, qui finit par finalement aller ailleurs parce que les choses n'ont pas bien été dites. Parce que le souci, par contre, qu'on a, justement, on n'en parle pas assez dans notre société, c'est que. C'est pas parce que c'est une relation amoureuse qu'il faut moins communiquer. c'est pas parce qu'on est en relation amoureuse et pas en relation de couple que c'est une relation à rabais, comme je dis souvent. Ça demande de l'engagement quand même des deux bords, mais c'est pas un engagement à long terme de la même manière.
Ouais, mais au contraire, toute relation demande énormément de communication, tant qu'à moi. Ah,
c'est ça, clairement, si on veut qu'elle soit bien et saine, ça me semble évident.
Même les relations amicales, en fait.
Oui, même les relations amicales, clairement. Vaut mieux parce que sinon ça finit toujours mal en général.
Et toutes les formules sont bonnes, hein, peu importe, tant que vous êtes heureux.
Tant qu'on est heureux et que la partenaire qu'on a veut la même chose. C'est hyper important.
Exact.
Voilà.
Ouais. Et donc parfois on peut très bien rencontrer une personne qui en fait, c'est pas forcément parce que, comme on le dit dans notre société, on l'évoque pas assez. C'est pour ça que j'aime bien donner ce vocabulaire, relation de couple ou relation amoureuse. Et en fait, on se rend compte que la personne veut plutôt une relation amoureuse qu'une relation de couple et elle a l'air OK avec ça. C'est juste qu'elle a pas appris à bien poser des mots dessus.
Mais ce serait quoi la nuance pour toi, Caroline, entre une relation amoureuse, exact, entre une relation amoureuse et une relation de couple?
Relation de couple. Alors le couple, c'est qu'on va vouloir, au-delà de passer des bons moments à la personne, on va vouloir construire. On a envie que ce partenaire reste dans notre vie, souvent à moyen et long terme.
Mais le fait de passer des bons moments avec quelqu'un, c'est pas un peu construire une relation aussi par la bande?
Oui, mais par exemple, tu vois, une personne typiquement qui veut une relation amoureuse et pas de couple, ça va parfois être une personne qui n'a pas forcément envie un jour de vivre avec l'autre, enfin même quasiment jamais, elle voudra jamais vivre avec l'autre. Elle voudra aussi, plutôt prioriser sa vie, sa carrière par exemple, ou sa vie de famille, si par exemple c'est un proche aidant, ou si c'est un parent solo. Et on va dire que, admettons, si elle avait un changement dans sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, important, ou quoi que ce soit, peut-être qu'elle terminerait la relation. C'est vraiment... Il n'y a pas cette notion d'engagement à long terme.
Le couple n'est pas une priorité pour cette personne-là. La personne est peut-être plus dans le moment présent, passer des moments de qualité avec l'autre personne, sans toutefois se projeter dans le futur.
Oui, et puis ça n'enlève pas l'investissement amoureux dans les deux cas. Je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus à temps partiel qu'est le premier, ceux qui veulent une relation amoureuse, sans toutefois enlever l'investissement et le sentiment amoureux qui peut être tout à fait complet. Et la relation de couple, ben, c'est vraiment être investi dans le couple à temps plein. C'est travailler pour créer des projets, c'est un peu ça?
Oui, un petit peu. Et on peut aussi être en couple sans vivre ensemble. Hein. Ça, je tiens à le préciser parce que je l'ai dit dans la relation amoureuse.
Ah oui, absolument.
Et Tu vois, un profil typique de la relation amoureuse qui parfois est souvent très mal vu dans notre société, alors que pour moi, il est complètement OK, c'est par exemple une personne carriériste qui a très envie d'avancer dans sa carrière, mais qui n'a pas envie d'avoir un couple, parce qu'un couple, comme on a dit tantôt, et en première partie, ça peut demander, si on a envie de vivre un couple comme il faut, un réel investissement dans la relation où il va falloir traverser des difficultés et s'investir pleinement pour que ça fonctionne. On va vouloir monter des projets ensemble qui demandent le fait d'être présent l'un pour l'autre. Si l'autre va pas bien dans sa vie, ben, on a envie d'être là pour lui. VS, dans la relation amoureuse, on va être plus deux personnes autonomes. Donc, par exemple, je suis quelqu'un de très carriériste, j'ai envie d'avancer dans ma carrière, j'ai pas trop l'espace émotionnel dans ma vie et la disponibilité pour quelqu'un pour être présent dès qu'elle ou il a un problème. Je décide d'être avec une personne aussi très autonome et on se rencontre juste pour passer des bons moments. Viens, on va au resto ensemble. Viens, on va passer une nuit ensemble. Viens, on va passer un week-end ensemble. Viens, on va
Ça
passer
peut
une semaine
paraître un
de
peu
vacances ensemble.
égoïste, mais si la personne trouve une autre personne avec les mêmes besoins, ça peut être un couple parfait. En fait, ça peut être un duo parfait et pas un
C'est
couple.
ça. C'est du coup pour moi une relation amoureuse.
Oui, et est-ce que ce serait possible que toutes les relations de couple, dans ses fondements, commencent par une relation amoureuse et si ça va bien, et si ça se développe bien avec le temps, ben ça finit par une relation de couple?
Alors moi, j'aime pas dire ça parce que du coup, je trouve que ça enrichit et ça nourrit cette notion qu'on met de pression au début d'une relation pour ceux qui ont
Oh!
besoin de parler des choses.
OK.
Pour moi, en fait, si par exemple, tu étais célibataire et que toi, tu veux vraiment fonder un couple plutôt qu'une relation amoureuse, mais que tu peux pas être certain de t'engager avec la personne que tu rencontres tant que tu la connais pas assez. Bah, c'est simple, c'est bien, on est sur une phase de rencontre. On continue de se rencontrer, etc., jusqu'à ce que je me sente à l'aise de dire qu'on est en couple ensemble.
Ouais.
Ok?
Très
C'est
intéressant.
parce que si d'avance tu sais que c'est un couple que tu veux, il va falloir avoir certaines discussions essentielles. VS, si c'est une relation amoureuse que tu veux, tu vas pas aborder des conversations qui sont essentielles pour une autre personne qui voudrait être en couple.
Bon, rester en surface.
Et j'imagine que ça a un lien avec le style d'attachement également, là, des gens qui sont au style d'attachement évitant. Est-ce que ça vient rejoindre ça un petit peu?
Alors, oui, alors là, on va justement parler derrière on parlait de ces des gens qui ont du mal à s'engager, ont-ils un problème? Alors, les styles d'attachement évitants ou autres, pour moi, après, je vais rentrer dans les gens qui ont du mal à s'engager à cause de peur.
Mais la personne, excuse-moi, avant qu'on aille plus loin, Caroline, j'ai une question qui me tracasse, là. La personne qui a du mal à s'engager, est-ce que c'est elle le problème ou c'est plutôt les personnes qu'elle rencontre avec qui elle a du mal à s'engager qui sont le problème? C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est juste pas tombée sur la bonne personne avec qui s'engager encore.
Je pense qu'il n'y a personne qui a
Alors
le
ça,
problème là-dedans, là, c'est un fit en fait.
ben,
C'est
c'est ça que je
difficile
dis,
quand même de
exact.
tomber et de faire un duo parfait là, du premier coup. Là.
Alors en fait, c'est rigolo parce que je comptais y répondre ça avec la question de j'attire des gens qui ne veulent pas s'engager.
Oh, all right, bon, ben, let's go.
Ouais, c'est pas mal. On est 13 ans d'avance sur le truc là, mais en gros, ou une personne qui a du mal à s'engager, c'est qu'en effet, parfois, je rencontre une personne, j'ai un doute, franchement, j'ai l'impression que ça ne va pas le faire, ou des fois elle me plaît, des fois elle ne me plaît pas cette personne. Et naturellement, j'ai du mal à m'engager. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément que tu as un souci avec l'engagement, c'est qu'en effet, cette situation, elle n'est pas, c'est peut-être pas la bonne personne qui est là en face de toi. Et dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir des doutes. Il vaut mieux les écouter. Et ça, c'est pas qu'on a un problème avec l'engagement. Là où je
Voilà.
dirais, il y a des styles de personnes qui peuvent en effet avoir un souci vis-à-vis de l'engagement, c'est des gens qui ont la peur globale de l'engagement. La peur, ça, on l'entend parfois. Les gens qui pensent que de s'engager avec quelqu'un, ça va les priver de leur liberté. Ils vont pas pouvoir vivre ce qu'ils aimeraient vivre. C'est comme s'ils allaient être bridés en relation. Les gens, quand ils parlent de mariage, j'ai
Oui.
l'impression qu'ils vont être enfermés.
Ouais.
Ça, c'est
Ça,
drôle, on voit ça souvent. On voit
ouais.
l'homme ou la femme qui, une fois mariés, ont l'impression d'être emprisonnés, alors que, je veux dire, la relation continue, là. On parle d'une
C'est la
journée
même
où
chose.
vous avez
C'est juste qu'on
décidé
a plus
d'unir votre
d'habits.
amour aux yeux de tous.
Ouais, c'est vrai,
Il n'y a
Mais
rien
alors,
d'autre qui change.
mais de fou, il n'y a rien, rien, rien. Ça peut aider pour certains papiers, that's it. Et puis parfois, c'est célébrer quelque chose de beau. Donc, il n'y a aucune raison. Pour moi,
C'est dans
là, ça
notre
vient.
tête.
Ouais, pour moi, ça vient de deux grandes sources. Soit ça vient malheureusement d'une très mauvaise, j'ai envie de dire, éducation relationnelle qui a été due à des croyances familiales ou des croyances amicales et sociales. Donc des gens autour desquels on a grandi, on a évolué et on l'a beaucoup entendu, on a beaucoup rapporté le fait de
Mariage
l'engagement à
égale
quelque
corde au
chose de.
cou.
Voilà. Donc ça peut être dû à ce genre de croyances-là.
Oui.
Ou bien ça peut aussi être dû à, je sais pas si vous en avez déjà rencontré des gens comme ça, moi j'en ai suivi pas mal, j'en ai rencontré aussi dans leurs premiers amours, qui ont été avec un copain ou une copine qui parfois les a beaucoup bridés. Ils ont tout fait pour cette personne, mais en fait, ils étaient dans une relation ultra toxique au bout d'un moment. Et ils ont été un peu traumatisés de l'engagement, on va dire ça comme ça. Ça existe aussi, ce genre de personnes qui ont
ah,
vécu
oui.
ça.
Ouais.
Donc...
Après ça, on brise et puis ils ont du mal à recoller les morceaux. Est-ce qu'il y a,
voilà.
en troisième position, on pourrait aussi dire que ceux qui ont du mal à s'engager, c'est juste des gens qui potentiellement auraient du mal à s'affirmer, à mettre des limites, à dire ce qu'ils veulent?
Oui. Ben là, du coup, pour le coup, eux, ils peuvent aussi beaucoup attirer des gens qui ont du mal à s'engager, parce que vu qu'ils n'expriment pas ce qu'ils ont besoin, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils voudraient, ils n'arrivent pas, ben, ils attirent un peu n'importe qui dans
c'est
leur
un
vie
cercle,
parce qu'il n'y a
hein.
pas de cadre.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Il y a des gens aussi qui aiment le jeu de la séduction, mais qui sont très bien seuls. Je connais quelqu'un qui, lui, adore séduire, adore savoir bon, qu'il y a des chances avec une telle et une telle, mais une fois la première rencontre faite, il n'a pas envie d'aller plus loin. Et il vit sa vie de solo très bien. Il est indépendant, il est bien comme ça. Il sent pas le besoin d'avoir une femme à ses côtés tous les jours. Mais c'est comme si la société faisait en sorte que l'image du couple idéal, c'était d'être en couple et d'habiter sur le même toit et tout ça. Pour lui, c'est presque un échec de ne pas être en couple, alors que pourtant, il est très heureux seul. Donc ça, je trouve ça drôle aussi. Hein. La société, on dirait que ça met une certaine forme de pression sur les gens, en fait, qui sont pas dans le moule nécessairement. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
C'est pour ça, et c'est pour ça, ça vient me chercher là quand tu dis ça, parce que c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler des relations de couple et des relations amoureuses, parce qu'il y a vraiment, et en plus dans chaque relation de couple ou amoureuse, il y a différents styles dans le couple ou dans la relation amoureuse, et souvent les gens vont se retrouver dans des styles. Donc quand j'ai une personne comme ça qui vient, comme par exemple ce monsieur qui viendrait et qui me dit je me sens un peu perdue parce que j'ai l'impression d'avoir un problème alors que pourtant je m'y sens bien, c'est ah bah attends, t'as peut-être pas de problème. Mais viens,
c'est
va
ça.
Mettre un terme sur le genre de relation que tu as besoin et que tu cherches, en fait. Et arrête d'être entre, comme on dit, le cul entre deux chaises, là. Assume ce que tu veux. Et oui, il y a des personnes qui ne voudront pas de ce que tu veux, puis il y en a qui voudront la même chose que toi. Donc, c'est correct.
Mais oui.
Exactement. C'est bon de pouvoir poser des mots sur ce que chacun veut.
Exact. Puis tu vois, j'ai quelqu'un récemment qui me racontait, bon, ça fait plusieurs mois qu'elle fréquente quelqu'un. Ils font des sorties ensemble, s'affichent sur les réseaux sociaux ensemble. Il l'a présenté à des amis, tout ça. Et là, puisqu'il ne, lui, ne se sent pas prêt à la présenter à ses enfants, elle ressent comme un mal-être par rapport à tout ça. Lui trouve que c'est quand même tôt. Il a été en couple très longtemps avant avec la mère des enfants et tout. Et il ne se sent pas prêt à la présenter à ses enfants. Elle voit ça comme une étape importante où il devrait être rendu. Et elle est presque rendue à dire, écoute, bon, je vais cesser ça là. Si toi, t'es pas prêt, c'est comme si j'étais pas assez importante pour toi. Alors que lui ne se sent pas prêt. Donc, j'ai l'impression que des deux côtés... Et lui ne se sent pas prêt non plus à dire officiellement « on est un couple ». Donc, ouais. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Mais de là, mettre un terme à une relation qui pourtant fonctionne super bien au quotidien. Ils passent des moments merveilleux ensemble. Dans le moment présent, c'est une relation qui comble les deux. Donc là, on est vraiment au stade où c'est de nommer... C'est comme s'ils n'étaient pas satisfaits de ce que l'autre ne fait pas, finalement. Mais pourtant, au quotidien, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi on a ce besoin-là de devoir à tout prix mettre une étiquette, mettre le mot. C'est comme si ça nous assure quelque chose, mais en réalité, on est déjà, ils sont déjà comme un couple, finalement.
Ce que tu décris, Mel, il y a tellement de gens qui vivent ça. Là. On dirait qu'il y a comme une lacune au niveau de la synchronicité et du rythme d'affirmer les choses. Y a-t-il quelque chose que ces couples-là peuvent faire pour arriver à juste mesure, à la même place dans ces débuts-là de relation?
En fait, je le comprends, monsieur, de ne pas vouloir présenter tout de suite demoiselle aux enfants. T'sais, c'est quand même la première personne après la mère des enfants qu'il présenterait. Donc, officiellement, ça prend quand même peut-être un certain délai, s'assurer que la relation est solide et tout. Mais
et
de
puis,
l'autre côté...
Il n'y a pas de règle en plus là-dessus.
Comment?
Il n'y a aucune règle là-dessus en plus.
Non,
exactement.
Là, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'elle aussi, elle a du mal à se mettre à sa place puis à comprendre son raisonnement.
Ouais. Oui, c'est c'est que pour elle, c'est un signe qu'elle n'est pas importante pour lui s'il ne fait pas ce move-là. Mais en même temps, je peux la comprendre, mais en même temps, je pense que c'est légitime de vouloir attendre encore un peu, peut-être.
Alors, dites-moi, si vous avez d'autres trucs, je vous écoute.
Vas-y,
on attend ta réponse avec impatience.
On fait tout!
Alors, j'ai tellement de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà, tu as parlé de signes. Il faut faire ultra attention avec les signes. J'ai préparé quelques stories que je vais mettre la semaine prochaine là-dessus, d'ailleurs. Faut faire ultra attention avec les signes. Le problème avec les signes, c'est que Tu vas essayer de te rassurer à travers des choses que tu observes dans la relation, au lieu d'en parler. Déjà, c'est un problème.
Mm-hmm. Ah, puis tout est matière à interprétation en matière de signes.
Oh, my God.
Ça, c'est fou.
Tellement. Ouais. Et puis, comme on disait tantôt, le risque aussi, c'est qu'à force d'observer et qu'on se dit, on se monte la tête nous-mêmes,
on
qu'est-ce qu'on risque de faire en communiquant? Mettre la pression, reprocher, etc., au lieu de écouter. C'est hyper important. Donc,
ouais.
T'as dit un truc tantôt, elle aurait besoin de s'assurer que c'est OK. Donc, on va dire, elle aurait besoin de se rassurer que c'est OK. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elle a autant besoin, elle a autant besoin, elle a autant besoin, ce serait hyper intéressant d'avoir avec nous pour lui poser la question, est-ce qu'elle a des peurs d'être par son vécu, de part, etc. Et comment est-ce qu'ils en ont parlé ensemble? Admettons, ils en auraient déjà parlé. Comment est-ce qu'ils en ont parlé? Parce que ça, les gens, ils savent toujours me dire « Oui, oui, on en a parlé. » Mais souvent, on va voir que c'est dans une tonalité de reproche ou une tonalité de peur ou une tonalité de... Ce n'est pas véhiculé avec la bonne intention.
Et tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Tu as dit « Elle veut juste être rassurée au final. » Est-ce que c'est à elle de s'auto-rassurer ou c'est à son conjoint de le faire? Parce que pour elle, c'est un besoin, mais pour lui, c'est juste une étape auquel il n'est pas rendu.
Il ne faut pas oublier qu'on est deux. Et qu'on a besoin de nourrir une relation. Donc, il y a des choses où on ne va pas pouvoir être un à aller nourrir dans la relation. Je pense que ça va. Il faut qu'on soit deux et qu'on en parle pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse avoir cette troisième entité du couple qui soit fonctionnelle des deux côtés. Et ça va être important que, admettons, si on prend cet exemple, ce serait super intéressant de voir s'ils en ont parlé ensemble. S'ils n'en ont pas parlé, qu'elle, elle se prépare à pouvoir lui en parler, mais à travers de l'écoute. C'est-à-dire lui poser des questions, lui demander.
Oui, je pense qu'ils en ont parlé, mais c'était surtout en mode reproche.
Ouais, et ça, c'est dangereux.
Ça aide pas, ça.
Tu sais, je suis déçue, j'ai l'impression que je suis pas importante pour toi, puis tu sais, en mode reproche comme ça.
Mais c'est là que ça devient pineux, parce qu'elle, elle a un besoin qui est pas comblé, puis lui, ben, c'est pas un besoin pour lui de le faire à ce moment-là. Au contraire, il aimerait attendre. Alors, on est dans une belle dichotomie, là. On est dans une espèce d'endroit où il y aura pas de gagnant. Il va falloir qu'il y ait un des deux qui cède, exactement.
Finalement.
Alors oui, et c'est dangereux. Parce que là, on va être dans un rapport de force et ça ne va pas aller. Donc, ça va être important pour moi de... Déjà, parce que le problème, c'est que souvent, quand on y allait comme ça, avec autant de maladresse, on a créé un tabou. C'est-à-dire un sujet qui est un petit peu plus délicat à aborder. Donc, il faut qu'on sorte du tabou, qu'on sache remarquer qu'on a été maladroit et qu'on sache lui dire, écoute, je me rends compte, par exemple, la dernière fois que j'étais peut-être mis la pression et que j'ai été maladroite sur comment j'ai amené les choses, j'en suis foncièrement navrée, parce que je me rends compte que peut-être... Toi aussi, peut-être de ton côté, il y a des raisons et qui peut-être qui sont intelligentes et légitimes qui font que tu te sens pas prêt. Donc j'aurais plutôt besoin de comprendre, et je m'en excuse encore, il faut le dire autant que nécessaire de mon attitude de la dernière fois, pour qu'on comprenne que c'est le drapeau blanc qu'on sort et que l'autre va pouvoir parler et se confier émotionnellement aussi, comme tu disais tantôt, et librement, sans avoir l'impression que ça va lui retomber sur la figure, et qu'on puisse lui dire vraiment... J'aimerais bien avoir ton ressenti. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu sens que tu as besoin de temps? Comment tes enfants le vivent? Est-ce qu'ils savent que tu es avec quelqu'un? Et comment tu as l'impression qu'ils le vivraient? Et aussi, toi, est-ce que tu as des peurs en leur annonçant par rapport à certaines choses? Et écouter. Et si, sur le moment, tu sens que ça te perd un peu et que tu ne sais pas trop comment réagir et que tu as l'impression que tu risques de devenir très maladroit, tais-toi, écoute-le. Remercie de t'avoir dit ça. Le pain, là, le sandwich, le dernier pain, c'est on remercie, on valorise. Merci de m'avoir partagé ça, c'est important pour moi. Je sens que tu t'es confié et ça m'est vraiment... c'est de la valeur pour moi.
Pour ceux qui se joignent à nous, je pense qu'on va répéter là, l'histoire du sandwich, parce que je sais qu'il y a des gens là, qui se sont peut-être joints à nous plus tard. En premier bloc, on a parlé du sandwich. Donc, peux-tu répéter la méthode du sandwich? Parce que c'est quelque chose que j'ai appris ce soir que je trouve fascinant.
La méthode du sandwich, c'est la méthode plus moins plus. C'est-à-dire, quand on a quelque chose à dire de délicat à quelqu'un, on va utiliser un premier pain du sandwich, le plus, c'est-à-dire valoriser, dire pourquoi on a envie de parler à l'autre, pourquoi il est important pour nous, et lui exprimer qu'on a envie d'avancer ensemble dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on va se permettre de lui dire quelque chose qu'on espère qu'il va bien prendre. On met de la sauce. Là, on dit le moins, la problématique. J'ai l'impression que... Je répète très rapidement, et puis on n'est pas allé dans ce détail-là, on pourra faire, si vous voulez, un détail plus important sur ça un jour. Mais on va aller dire les choses en donnant plus notre ressenti, c'est-à-dire j'ai le sentiment que, plutôt que d'accuser, tu as fait ça, tu as dit ça, ça c'est très propre reproche, il faut faire attention.
De tomber dans le reproche, la personne peut carrément se fermer.
Non, mais je pense que le reproche, à la base, est une attaque Quand tu reproches oui. quelque chose à quelqu'un, tu l'attaques. Donc, l'autre personne va toujours être sur la défensive. Je pense qu'au exact. Contraire, on gagnerait beaucoup à juste expliquer pourquoi on se sent comme ça. Dans l'inclusion et dans la communication affirmative,
tellement.
Dans l'accueil, dans l'écoute, dans la communication bienveillante, comme tu le disais, Caroline. À ce moment-là, ben, l'autre va être beaucoup plus enclin à nous écouter puis à faire partie du partage émotif.
Clairement. Et qu'à tout moment, si on sent que l'autre se braque ou le prend mal, on le sent dans le non-verbal ou dans le verbal, on sait si on lui demande est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que... Et on écoute. Si la personne prend de travers, parce que nous, on a peut-être été à l'appui sur un point qui n'allait pas chez l'autre, on essaie de désamorcer, lui dire vraiment non, c'est pas un reproche que je te fais, mais si je te partage pas mon ressenti, tu peux pas savoir comment je me sens. On peut utiliser la méthode que Mel disait tantôt, mettre l'autre à notre place. Si tu étais à ma place, que tu ressens les choses comme ça et comme ça, comment tu voudrais que j'agisse ? Ok ? Est-ce que c'est ok comment je suis en train de te le dire là ou tu préférais que je te le dise autrement ou qu'on fasse autrement ? Comme ça permet d'inclure l'autre plutôt que qu'il se prenne un monologue dans la figure et que on est en train de le braquer de pire en pire alors qu'on voit déjà qu'on est en train de le braquer. Ça sert à rien d'aller plus loin si on braque. Une fois qu'en gros on a réussi à dire, tout ça c'est des techniques qu'on pourrait approfondir plus longuement, hein. J'essaie de faire du rapide.
Oui.
Une fois qu'on a réussi à faire passer le message, on remet un pain dans le sandwich, donc on remet un plus, on revalorise, on repose notre intention qui est vraiment qu'on a envie que notre couple fonctionne, on a envie que l'autre se sente bien, on a envie que, en fonction du sujet qu'on aborde, etc., etc., on a envie de pouvoir se sentir avec le besoin justement comblé, donc lequel.
Ouais. Et quand on est dans un fossé comme ça, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, Caroline, je pense que le message est aussi important que la manière dont on livre.
Oui.
C'est vraiment, vraiment aussi important. Il faut faire attention à la façon dont on dit les choses pour ne pas heurter les sensibilités. Parce que à la seconde où on heurte la sensibilité de l'autre personne, elle va se braquer, elle va se fermer, les tons inquisiteurs.
Ça peut être fatal.
Exactement. Puis le message ne sera juste pas délivré et pas compris. On dit une chose et il y a 10 façons d'interpréter.
Ah, mais tellement. Ce serait tellement intéressant d'avoir des études qui montrent combien de couples sont... paraître pour des problèmes de communication, je pense.
Mais j'en ai un autre qui me vient en tête, c'est un couple d'amis, bon, ils étaient en couple durant 3 ans, infidélité, ils se séparent. Au bout de quelques mois, ils décident de reprendre contact, recommencent à se fréquenter. Au bout de quelques semaines, madame avait besoin de se faire dire, OK, là, on est en couple, on a repris ensemble, hein, on est en couple, et lui de dire, écoute, on recommence, on revient tranquillement. On va, oui, on s'en va vers là, mais on prend notre temps, tu sais. Et finalement, ben, elle a tellement mis de pression à vouloir, elle avait tellement besoin d'être rassurée, de se faire dire qu'ils sont revenus en couple suite à tout ce qui s'était passé, avec raison, je pense. Eh bien, monsieur s'est tout simplement refermé et a quitté la relation. Peut-être que ce serait arrivé inévitablement, mais souvent, à mettre de la pression sur l'autre, à devoir nommer la relation... C'est plate parce que ça brise le moment présent et ça met l'autre en position de fermeture et de vouloir se braquer, finalement.
Ouais, c'est une des raisons aussi qui font qu'on attire parfois des gens qui ont du mal à s'engager, qu'on a l'impression, en fait, qu'on attire, c'est juste qu'on crée ce genre de situation et qu'on devient trop exigeant à un certain niveau par peur, par besoin d'être rassuré, par besoin d'avoir un cadre. On est trop dans le contrôle.
C'est intéressant ce que tu dis, là, dans le sens où les gens qui veulent toujours être assurés, comme tu le dis, qui ont peur et qui y engagent des gens qui ne veulent pas s'engager parce que c'est étouffant comme comportement d'être avec quelqu'un
mais
comme
complètement.
Ça.
Et en plus, elles vont se dire qu'elles ont un problème parce que la personne qui n'a pas voulu s'engager, il arrive à s'engager dans la relation suivante parce qu'en fait, lui, il n'avait pas de soucis.
Ben, c'est ça, exact.
C'est que c'est usant d'être avec une personne comme ça. Ça peut être très éreintant.
Mais oui, quelqu'un qu'on doit toujours, quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, qui doit toujours être sauvé, mais pas sauvé, mais c'est-à-dire quelqu'un qui doit toujours être rassuré, réconforté. Pour quelqu'un qui est dans un style d'attachement sécur, par exemple, qui lui, sa vie va bien et tout ce qu'il voudrait, c'est d'avoir un amoureux avec qui passer du bon temps. S'il passe son temps à rencontrer quelqu'un qui a constamment besoin d'être sécurisé, réconforté, assuré, tout ça. Ça peut être lourd. La personne ne veut pas non plus quelqu'un qui a... Tu sais, il y a souvent des gens qui, à première vue, semblent super confiants sur d'eux. Et dès qu'ils tombent en relation, ouf, ils tombent anxieux. Ils ont peur de l'abandon et tout ça.
Abandonné.
Ah là, ça devient étouffant comme relation et ça devient invivable. Et là, ben, la personne sécure se dit, « Mon Dieu, ben, t'étais pas comme ça quand on s'est rencontrés. » C'est comme... Donc, ça, c'est à faire attention aussi, hein.
Ouais, vraiment, en plus, j'ajoute ça, on va peut-être pas partir là-dedans parce que ça va être long, mais il faut juste en avoir conscience, c'est que En fonctionnant comme ça, en plus, on a un grand potentiel de créer quelque chose dans la relation qui est extrêmement mauvais. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle de Carpane. C'est
oui.
De se mettre dans une position de victime. L'autre va être notre sauveteur ou notre bourreau. Et le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre de triangle, en plus, sans être accompagné, c'est quasiment impossible de s'en sortir dans une relation. En fait, on va sans arrêt être dans un des rôles. L'un va passer victime en mode...
Parfois, la victime peut passer de victime à persécutrice.
Complètement, de bourreau, et derrière l'autre, ça va être le sauveteur, ou inversement, une fois que c'est l'autre qui souffre, c'est elle qui va passer en rôle de sauveteur, etc. Elle ou lui, hein, parce qu'on a pris le rôle féminin. Mais,
oui.
Mais, et même si on ne connaît pas le principe du triangle de Cartman, notre subconscient, il n'est pas stupide, et quand on arrive dans une relation où on sent que la personne est comme ça, on sent que ça ne va pas être sain, et c'est souvent ça qui se met en place parfois derrière. Donc il y a une part de nous qui dit « Oh, pop, pop, attends, moi je m'en vais, ça ne va pas marcher ».
Le triangle de Cartman, vous pouvez le trouver là, sur le web, vous pouvez le googler, là, c'est très intéressant comme concept.
Oui, puis est-ce qu'il soit aussi possible que, par exemple, quelqu'un qui a un style d'attachement qui est plus insécure, ambivalent, à la longue, s'il est avec quelqu'un qui est sécure, le contamine et la personne sécure change de style d'attachement, qu'il devienne à son tour ben, un peu insécure, un peu ambivalent parce que c'est ce qu'il vit au quotidien?
Moi, je pense qu'il peut plutôt devenir évitant.
Évitant également aussi.
Oui, il peut devenir évitant et je dirais qu'il deviendrait insécure si l'autre, dans ses manières d'être, va devenir agressif ou à faire du chantage ou à faire... Et puis acter son chantage.
Parce qu'elle ne se sent pas comprise, par exemple, ou ses besoins ne sont pas comblés.
Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens, moi j'en ai vu en clientèle, et je trouvais ça, sans le juger, hein, je l'accueille, mais je me dis, c'est triste d'en arriver jusque-là quand même. C'est des gens qui, par exemple, vont avoir vécu de l'infidélité. Bah, puisque mon partenaire a été infidèle, moi aussi je vais être infidèle.
Ouais. Ah oui.
Comprendre ce que c'était. Mais mon Dieu.
Œil pour œil, dent pour dent, c'est vraiment pas la solution.
Quelqu'un qui a été infidèle. Puisque mon partenaire est infidèle, je vais lui renoter toute la vie.
Ah mais oui, toute mon Dieu, ça, je l'ai eu aussi.
Oh. Le partenaire se sent mal, il ressent la culpabilité, il se sent coupable, donc il va être comme un peu au pied de l'autre personne qui est passée de victime à persécutrice, littéralement.
Oui, mais on est beaucoup dans le négatif, mais il y a également énormément d'histoires où on entend que l'infidélité dans le couple est capable de donner un second souffle au couple parce qu'il y avait quelque chose de brisé avant qui abordait pas, et l'infidélité vient donner cette espèce de renouveau là au couple où les deux partenaires peuvent se retrouver.
Ouais. Alors, si vous êtes en ce moment dans le doute d'être fidèle ou infidèle, je vous inviterai à ne pas traverser la barre.
C'est un lot d'emmerdement, on va se le dire. Ça ne vaut pas la peine.
Il n'y a pas tous les couples qui arrivent à le dépasser. Hein. Ce n'est pas forcément renouveau pour tout le monde. Ça peut, avec beaucoup de recul, on peut réussir à le prendre comme ça. Si vous êtes dans le trouble en ce moment par rapport à ça, venez consulter, on va en parler. Venez m'écrire au moins si vous n'êtes pas prêt à consulter et on va pouvoir essayer de comprendre certaines choses. Et il y a souvent simplement un besoin de se reconnecter à soi, un besoin de réussir à reposer des mots sur des choses et un besoin après de réussir à communiquer.
Les statistiques sont quand même étonnantes par rapport à ça. C'était près de 50% des couples, je crois, qui ont vécu une infidélité qui se renouerait positivement, mais il y a quand même près de la moitié également qui se sépare à vie par la suite. Mais surtout, si vous renouez avec votre partenaire qui a été infidèle, vous acceptez qu'il ait été infidèle, c'est votre choix de revenir dans la relation. Maintenant, vous devez à tout prix lâcher prise par rapport à ça et continuer d'avancer. Vous ne devez pas constamment revenir avec cette infidélité-là et constamment lui reprocher non plus.
C'est extrêmement difficile pour l'autre personne parce que l'autre personne a un traumatisme qui est relié à ça. On parle quand même d'une solide trahison. Donc forcément, lorsqu'il arrive des enjeux dans le couple, des embûches, ça se peut que l'autre personne revienne à ce traumatisme-là, non pas parce qu'elle le veut, mais juste parce que c'est comme ça. Son cœur va là, puis c'est un trauma. Là. On décide pas quand on revient ou quand on revient pas. Là.
Mais non, ça nécessite beaucoup de travail sur soi. Là.
Effectivement, beaucoup de conversations, j'imagine, Caroline.
Ah oui.
Ouais. Beaucoup de conversations, parfois un travail très émotionnel, puisque comme tu dis, ça vient chercher beaucoup la personne qui a vécu, et elle a des flashs dans la tête, elle s'imagine beaucoup de choses, et c'est des images qui sont très dures à gérer. Et puis là, pour le coup, il y a aussi le risque de plus rien laisser passer à notre partenaire. Et c'est très émotionnel. On essaie de ne pas le faire, mais à l'intérieur de nous, on vit plein de frustrations. Et c'est souvent un combat. La personne qui a été trompée, c'est souvent un grand combat de réussir à redevenir un peu normal dans le couple.
En fait. Ouais. Et même si on va
mais
plus loin que ça. Oui, ouais. Vas-y, man.
Ben, même dans les relations futures,
ça peut être
un trauma qui te suit longtemps, là, la peur que ça se produise à nouveau avec un nouveau partenaire.
Exactement. Ils peuvent faire pour se stabiliser là-dedans?
Alors, pour moi, c'est un travail bien souvent un peu accompagné, parce que c'est un travail assez profond. Va falloir qu'ils reprennent confiance en eux, souvent. Déjà, voir où est-ce que ça les a touchés, cette situation et ce trauma dans leur vie. Est-ce que ça les a atteints dans leur confiance en eux, dans leur estime d'eux? S'il y a de ça, va falloir aller se refocaliser dedans, c'est-à-dire déjà, réintéresse-toi à ta vie. Revalorise tes centres d'intérêt. Ne les juge pas. Tu es intéressante comme personne. Que ce soit aussi ton physique. Se rappeler que peu importe avec qui l'autre personne t'a trompé, ton physique plaît forcément à quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, à quelqu'un avec des S, là, il y a plusieurs personnes. Que ce soit ta personnalité, elle plaît forcément à quelqu'un. Peu importe, en gros, les séquelles que ça a laissées sur ta confiance en toi, et ça, il va falloir réussir petit à petit à le revaloriser. Donc, en se réoccupant de toi, en se réoccupant de ta vie, en ne surtout pas se disant, oh oui, mais moi, mes activités ou ce que j'aime faire, c'est un peu poche ou c'est un peu plate, genre, il n'y a personne qui.
Briller, devenez,
Voilà.
pratiquez vos passions, faites-vous vibrer un peu et
Vraiment,
tout ça. Puis
clairement,
surtout,
profiter
repartez
de
à
la vie.
zéro dans la nouvelle relation. Repartez pas avec une crainte. Prenez le moment présent.
Prenez le temps de
Prenez ce
se
qui est
rencontrer.
tangible.
C'est ça, genre vraiment de surtout pas chercher des signes, mais de communiquer
Exact.
comme on disait tantôt, c'est-à-dire, ah, je le trouve distant, je le trouve. Non, 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 c'est parlez-en, quel genre de relation tu as envie, quel genre de choses tu veux vivre dans la relation. Pour toi, justement, la fidélité, moi j'ai vécu des difficultés avec ça dans le passé. Comment toi tu vis les choses, comment tu les as vécues jusque-là, comment voilà, t'aimes être présent pour ton partenaire. Si un jour tu ressens que l'herbe est plus verte ailleurs, comment tu comptes le gérer ou comment tu l'as géré dans ta vie? Tout ce genre de questions, faut pas les garder à l'intérieur de soi et se douter de comment l'autre réagit, faut en parler ensemble.
Alors, en
Exactement.
finalité, la clé de tout, c'est vraiment la communication. On revient
Ah
souvent à
voilà, mais
ça,
la
mais c'est
base.
la base de tout.
Ouais, c'est le pont entre chaque chose dans la relation.
Et on peut toujours avoir accès à ton fameux test sur les langages amoureux qui est disponible sur ton site web commelebonheur.com.
Oui, et ils auront aussi même, j'ai deux trucs gratuits, il y a ça. Et il y a mon e-book pour avoir 6 étapes pour rencontrer notre bonne personne, qui est gratuit aussi et qui peuvent simplement le demander sur mon site.
Sur le site web, donc vous pouvez vous abonner à l'infolettre également via l'infolettre de célibatairequebec.com. Vous pouvez vous abonner, Caroline enverra également de temps à autre des petits tests et des petits coucous comme ça, puisque Caroline est devenue notre porte-parole. Go see you!
Oui.
C'est vraiment super. Caroline, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Je pense que tu as répondu à énormément de questionnements qu'on avait de la part de nos auditeurs. Pour te joindre, comme lebonheur.com, Odyssée du bonheur sur Instagram. Et Facebook. Est-ce qu'il y a
Ouais,
d'autres
sur
endroits où on peut
Instagram.
te trouver là, sur les réseaux? Es-tu active sur d'autres plateformes?
Surtout sur Instagram. Je suis un peu sur TikTok avec Odyssée du Bonheur aussi, mais il faudrait que j'alimente un peu plus. Et puis sinon, par mon site, ils auront accès à mes réseaux sociaux, sur mon Facebook aussi, mais le plus actif, c'est Instagram, pour le moment en tout cas.
Parfait. Et tu as des ateliers à portée de main là, auxquels on peut participer, des cohortes que tu fais là, de temps en temps.
Oui, c'est ça. Des programmes aussi que je fais. Il y en a d'autres qui sont à venir, là, qui sont en pleine préparation. Donc, ils peuvent suivre tout ça avec grand plaisir.
Super. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Merci, Max.
Hey, merci à
Best
toi.
partner ever.
Yes, best partner ever.
Merci.
Hey, essaie donc
Merci.
de bien te remettre, là, s'il te plaît, au courant du week-end pour que tu
Ah,
nous
écoute, moi,
reviennes
je prends
avec une
ça
belle voix
off.
suave lundi.
Ah oui, je prends ça off tout le week-end. Écoute, je me repose. T'as pas idée à quel
Ça
point je vais me
veut-tu dire que tu
reposer.
répondras pas à mes messages?
Je répondrai pas à tous les messages, en tout cas, parce que j'en reçois beaucoup,
Oh
mais je vais prendre une petite pause en fin de semaine. Je vais voir Couple ouvert, par exemple, samedi soir avec ma
Oh!
meilleure amie d'enfance,
Avec
Couple
Thomas et
ouvert, Thomas
Stéphanie?
Levac et Stéphanie Vandelac. Yes! Donc, j'attends ça. Mes billets sont achetés depuis longtemps. Et j'ai failli choquer, mais je me suis dit, oh, non, je peux pas manquer ça depuis le temps et c'est toujours complet. Donc, on va assister à ça samedi soir, mais c'est vraiment tout là, ce que je vais faire ce week-end. Fiston sera avec son papa. Donc, je vais me reposer.
Bon, ben, parle-moi de ça. Bon repos.
Merci beaucoup. C'était la sexploratrice sur les ondes de choix, 98 Radio X.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.